Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marion Bartoli, Simon Dutin, Denis Charvet et Jérôme Pinault, ce matin, dans un instant, vos grandes gueules du sport vont vous dire ce qu'il faut absolument suivre ce week-end. En fin d'émission, je vous rappelle, vous pouvez participer au jeu du sport avec vos GG. Vous savez que c'est un quiz.
Pas perdu encore,
non. Denis ? On va vérifier ça parce qu'on a les stats maintenant.
Vérifier.
Marion, pour l'instant, deux jeux de victoire. Donc, on est sur un 100%. Oui. Aujourd'hui, remportez votre aspirateur Cyclomax R15, Denis, signé Easy Clean. Tu sais que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais que son aspiration cyclonique ultra puissante capture la moindre poussière.
Oh, c'est magnifique.
Ouais.
Je le veux.
Ouais. Pour gagner votre aspirateur Easy Clean, appelez
le 3216
touche 4.
Ah.
Ou envoyez Sport.
Ah oui, je pensais que ça se faisait tout seul, quoi. Ça.
Faut quand même pousser l'aspirateur.
3216 touche 4, ou envoyez Sport au 73216, Sport au 73216. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages sur WhatsApp au 0612 424 424. Tiens, j'ai un message de Julien qui nous dit: bonjour les amis, je suis avec vous depuis mon transat le long de la plage à l'île Maurice en vacances. Il nous envoie une photo, il est vraiment sur le transat.
C'est Julien Benetton, non ?
Et je vous écoute religieusement au soleil. Par contre, je ne participerai pas au jeu pour gagner l'aspirateur, car l'envoi d'un SMS depuis Lille coûte peut-être plus cher que l'aspirateur lui-même. Bonne émission, je vous adore.
Il est radin. Hein.
Il est à Lille.
Sans déconner, un SMS, c'est bon.
Bon, après, c'est vrai qu'on fait gagner un très bel aspirateur.
Mais c'est beau d'avoir des auditeurs qui nous écoutent pendant leurs vacances.
Exactement, c'est ça, voilà. On les embrasse. Allez, tout de suite.
Imagine.
Les amis, côté pas bien avec nous, Denis ?
Ah, je serais mieux là-bas.
Nous, demain, on va ronfler.
Vas-y, bah.
Demain on va à Honfleur.
Sous la pluie, tu vas te régaler.
À 5 grands prix de la fin du championnat du monde de Formule 1, les amis, tout est relancé pour le titre.
RMC, le ring des GG.
L'aileron cassé pour Lando Norris, qui a tout perdu dans cet accident. Là, terrible pour Lando Norris.
Vous tremblez, vous avez froid? Non, j'ai peur. Moi aussi, mais je ne leur montre pas, ça leur ferait trop plaisir.
Red Bull qui va marquer grâce à Verstappen. Premier, 25 points, voilà, c'est terminé maintenant. Superbe victoire. Il met la pression maximum sur les deux jeunes pilotes de chez McLaren.
Qu'est-ce que tu fous tout le temps derrière moi, toi? T'attends, je te dis.
Victoire de Verstappen, donc deuxième. On aura Russell à près de 15 secondes avec la Mercedes. Il était parti cinquième.
Ne tremble pas, je te défendrai. Je serai ton bouclier, ton fer de lance. Nous ferons bloc.
Oscar Piastri à l'intérieur. Lando Norris, il va partir en tête à queue. Il emmène son coéquipier. L'accrochage terrible entre les deux McLaren.
Moi, je vous préviens, les amis, c'est le feuilleton sportif qui m'excite le plus de cette fin d'année. Voilà, la Formule 1. Week-end de Grand Prix au Mexique. La qualif à 23h ce soir. La course demain à suivre en direct sur RMC à 21h. Tout est relancé pour le titre sur les 5 derniers Grands Prix. Verstappen a rattrapé plus de la moitié de son retard sur les McLaren de Piastri et Norris. Le quadruple champion du monde a claqué 3 victoires, une course au sprint et 2 deuxièmes places. Excuse-nous, monsieur. Le Néerlandais est revenu à 40 points du leader du championnat du monde à 5 courses de la fin. Donc, il reste aussi 2 courses au sprint. C'est important à Interlagos et au Qatar. McLaren avait décidé de ne pas choisir de leader d'équipe pour laisser ses pilotes se battre sur la piste. Les fameuses Papaya Rose. Décidément, l'anglais ce matin, on envoie du bois.
Ouais.
Les GG, je vous pose la question. La remontada de Verstappen, McLaren a-t-il commis une erreur en ne choisissant pas de pilote? Numéro 1, j'ai 3 oui, 1 non. 3 oui, Jérôme, Denis, Marion. 1 non, c'est Simon sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous êtes 64% à penser que oui, McLaren a commis une erreur en ne choisissant pas de pilote numéro 1. On vous attend au 32-16. Vos messages sur le WhatsApp 0612 424 424. On ne peut pas parler de Formule 1 sans le roi.
Ah oui.
Ah. Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc.
Le boss.
Le goth.
Ah, salut Georges, salut Marion. Salut Simon, Denis et Jérôme.
Jean-Luc qui va être un allié de Simon, je le sens. McLaren, pour toi, n'a pas fait d'erreur en choisissant pas de pilote numéro 1, Jean-Luc, je crois, non ?
Mais bien sûr qu'il n'a pas fait d'erreur. Alors, il y a plusieurs... Ben oui, tu vas voir pourquoi. Il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, on serait les premiers à être tristes si tout était figé depuis longtemps.
Bien sûr.
Et puis le problème, j'en reviens toujours.
Pas là, hein.
Eh ben si, attends, tu vas voir, on va y venir.
Laissez le roi.
Alors, juste, je vous avance trois arguments. Après, je sais qu'on va peut-être pas être d'accord, mais vous allez peut-être changer d'avis. La première, c'est, bon, ça c'est une chose, et je pense que tout le monde est ravi, comme Georges vient de le souligner, de cette course-poursuite extraordinaire, qui voit Verstappen quand même marquer 111 points quand Russell, c'est presque anecdotique, mais il est toujours mathématiquement dans la course au titre, on a marqué 80, Piastri 62, et donc derrière Norris seulement 57. Alors, on voit que cette pression qui monte, évidemment, se traduit par un léger raffolement, l'accrochage évidemment dans la sprint race à Austin en est la marque la plus évidente entre les deux jeunes pilotes. Alors, à force de vouloir faire trop monsieur propre chez McLaren, c'est-à-dire leur dire bon bah les gars, battez-vous, etc. Mais la consigne évidemment majeure, c'est de ne pas s'accrocher. Mais si tu veux, l'erreur qu'on a commis de mon point de vue, c'est justement de ne pas leur faire sortir les armes. On en a fait des petits garçons bien sages. Ça, c'est pas la Formule 1. Ça, c'est pas le sport de haut niveau. C'est-à-dire que là, il fallait leur dire vous avez tous les atouts pour devenir champion du monde, que le meilleur gagne et battez-vous jusqu'au bout.
Oui, mais ils sont au prix de perdre le titre. Non, mais je comprends
mais,
pas
attends,
ton raisonnement.
Mais attendez.
La question, elle n'est pas de savoir si ça pimente le championnat.
Attendez,
Jean-Luc, on peut quand même se dire que si Verstappen vient et fait la remontada et gagne le titre de champion du monde, ils vont quand même passer pour des cons. Ah, on est d'accord ou pas?
Exactement.
Non, mais c'est déjà arrivé. Alors, non, ils vont pas passer pour des cons. C'est les pilotes. Là, je suis désolé. Ouais, c'est pas l'équipe, c'est les pilotes qui n'ont pas l'état.
Rennes en 2007, ils sont quand même passés pour des cons, hein.
Ah ben oui, non mais ok, bah ouais, forcément quand t'as autant d'avance et que tu termines deuxième, oui, ah bah oui je suis d'accord avec vous.
C'est le même cas cette année quand même.
Exactement.
Mais non, moi je suis pas d'accord avec vous parce que en plus à quel moment aurait-il fallu figer? Et puis je reviens au dernier argument et là vous allez, je pense, être d'accord, c'est que c'est pas le bon qui est devant. Et oui, le problème, il est là. C'est que tout le monde le dit. Vous le savez, maintenant, c'est officiel. L'écurie veut que ce soit Norris qui gagne.
Ah oui, mais
or, Norris.
Oui,
mais... Donc, il fallait figer les positions quand Norris est deuxième, ça revient à dire que c'est Piastri qui va gagner.
Mais je comprends pas. Mais ton raisonnement, il tient pas. Ils avaient qu'en fait, justement.
Il fallait faire le choix.
Par rapport à la question, il fallait faire le choix de numéro un. Puisque
tu voulais choisir Norris alors qu'il était deuxième.
Mais quand même. Plus de raison, je te parle.
Ah bah oui, non, mais là, tu peux pas. Mais non.
Depuis que le titre constructeur est acquis, il fallait dire aujourd'hui, nous, on veut que ce soit Lando Norris champion du monde. Oui. Basta. Il y a un patron.
Oui, mais avec le retard qu'il avait sur Piastri,
deux mecs échappés avec 5 minutes d'avance au pied du dernier col et qui sont en train de se regarder pour qui va gagner et que finalement c'est le troisième piège.
Attends, Jérôme. À ce moment-là, c'est comme sur le Tour de France.
Non, mais
chez Sky, Bradley Wiggins c'était devant Christopher Froome et d'un coup, on aurait dit
il fallait faire gagner Wiggins.
Mais
ils ont fait gagner Wiggins.
Mais là, ce que tu dis, c'est qu'on va favoriser le deuxième.
Et ben là, vous dédouaner les pilotes.
Le moins fort des deux, peut-être.
Ouais. Mais c'est ça va être de leur faute à eux s'ils gagnent pas le championnat.
Mais c'est ce qui va se passer. Parce qu'en faisant pas de choix, ils prennent le risque de tout perdre.
Ils auraient dû avoir des consignes.
Ah, ben ça, toujours, oui, dans ce cas-là, bien sûr.
Bah oui,
ben
le mec,
les pilotes n'ont pas l'étoffe. Ils n'ont pas l'étoffe pour être champion du monde. Avec une telle avance.
Jean-Luc, le problème, quand tu désignes pas un numéro 1, ça veut dire que tu mets les deux sur la même ligne, d'accord?
Oui.
Et la concurrence, elle est féroce. C'est-à-dire que ils vont se battre l'un contre l'autre, alors que c'est plus un problème, c'est plus, comment dire, un rapport collectif.
Oui,
dans l'équipe, je veux dire, c'est ça le problème. Et je pense qu'une écurie, elle doit le jouer collectivement, il me semble.
Alors, mon dernier argument, c'est que le dernier baston qu'on a eu à ce niveau-là dans une même équipe, c'était Mercedes en 2016. Vous êtes d'accord?
Oui.
Bon,
oui.
Et bien là, on n'a pas fait le choix entre les deux équipes, et donc il y a eu un vainqueur, c'est Rosberg qui a battu Hamilton à la régulière.
Après,
l'équipe dominait également.
Il y avait pas un troisième pilote vraiment derrière qui les mettait en difficulté.
Oui, attends.
Mais elle est là la problématique. Jean-Luc, on n'aurait pas ce débat
si le troisième
c'est pas Verstappen.
S'il n'y a pas un troisième,
Marion.
Bien sûr.
Marion, toi, tu aurais voulu voir un numéro 1.
Non, mais je suis complètement d'accord avec Jérôme. Le problème, c'est que si effectivement c'était une lutte interne pour savoir qui est le meilleur pilote, mais qu'il n'y avait pas de troisième, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'était un pilote McLaren qui allait gagner, bon, bah, laissons le meilleur gagner, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, le problème, c'est qu'ils vont vraiment passer pour des débiles. S'ils finissent par perdre le titre à la fin, pour des erreurs, mais vraiment d'une idiotie, je rappelle quand même ce qui s'est passé au Grand Prix du Canada. Norris percute l'arrière de Piastri à 3 tours de l'arrivée. À 3 tours de l'arrivée.
Il risque de perdre le titre là.
Mais bien sûr, et on en arrive à des erreurs en course qui sont inimaginables pour des pilotes de cette stature.
Ça paraît fou,
si tu désignes ouvertement, et encore une fois, je te dis pas le faire au bout de 5 courses, mais quand tu vois que pour moi, le championnat des constructeurs est acquis, qu'il y a un écart Alors même si c'était pas ton chouchou, même si c'était pas ton favori au début, qu'effectivement, ben c'est Piastri qui est devant et que c'est lui qui tient la baraque, je suis désolée, si t'as un patron qui se respecte, tu prends Lando Norris les yeux par les yeux, tu dis ben je suis désolée, mais là effectivement, il a été meilleur que toi et donc on va le favoriser parce que ce qui est en train de se passer, c'est que Lewis Hamilton l'a d'ailleurs déclaré, il a été interviewé là-dessus sur le Grand Prix du Mexique. Il y a une lutte interne même entre les mécaniciens qui ne se parlent plus. Tu as une lutte entre les ingénieurs qui ne se parlent plus. Et en fait, le problème, c'est que déjà en interne, tu as des tensions qui sont en train de se créer, qui sont énormes. Donc bien évidemment, des pilotes aussi jeunes. Alors moi, je prends l'exemple d'Hamilton en 2007 parce que ça me paraît extrêmement marquant. C'était la première année d'Hamilton en Formule 1. Il était rookie, il était dans la même équipe qu'Alonso qui était déjà double champion du monde. On est à 2 grands prix de la fin, on est en Chine. Et il reste la Chine et le Brésil. Et à partir de là, les deux fois McLaren font des erreurs en ne favorisant pas Hamilton parce qu'elle
ont les amis, c'est pas parce que c'est
et du coup tu te fais battre par qui aussi, hein. Non mais tu te fais battre par qui? Par Raikkonen d'un point. Bah, d'un point.
Ça n'arrive pas à la fois.
Et t'as l'air complètement idiot. T'as l'air complètement idiot. Et là, je suis désolée, il faut apprendre des erreurs du passé. Et c'est là où, pour le coup, moi, je respecte plus quelqu'un comme Toto Wolff. Si t'es pas capable, à un moment donné, là maintenant, s'il reste encore du temps, il y a encore quand même 40 points d'avance. Piastri, il a quand même 40 points devant sur Verstappen. Si maintenant, tu dis pas à tes pilotes, bon, bah, c'est comme ça que ça va se dérouler jusqu'à la fin. Il faut absolument qu'il y ait un pilote McLaren qui gagne ce championnat.
Mais aujourd'hui, ça va se passer comme ça.
Il reste encore du temps, surtout. Simon, tu vas voler au secours de Jean-Luc Roy.
Il est dans les stands, mais évidemment,
McLaren n'aurait pas dû choisir un numéro 1, t'es d'accord avec Jean-Luc?
Tout à l'honneur d'une écurie mythique, voilà, qui respecte l'histoire, les attentes des fans. Moi, je tiens à souligner l'hypocrisie de mes co.
Et qui font pas ça pour gagner, c'est ça, pour participer.
Parce que vous seriez les premiers à dire, on s'en merde.
Spectacle, voilà.
S'ils avaient choisi Piastri, il y a 5 ou 6 courses.
On aurait dit c'est pas du sport, ça.
Mais oui, voilà, la Formule 1 c'est toujours pareil, c'est ceux qui ont la meilleure bagnole et en plus ils choisissent. Nous, on a envie de voir ça. Ils ont réussi à pimenter la fin de saison.
Quand Schumacher freinait pour laisser passer.
Donc ils sont pas dans la performance.
Dans l'histoire de la Formule 1, il y a des rivalités. Prost et Senna chez McLaren, ça a fait la légende de ce sport et pas sûr que chez McLaren ça leur plaisait tant que ça.
Mais ils sont pas restés ensemble.
Nelson Piquet et Nigel Mansell chez Williams, eh ben c'était la plus belle rivalité du plateau. Eh ben ça a fini par leur coûter à chacun le titre. C'était en 86 ou 87. C'est Prost sur McLaren.
Ça s'est toujours mal fini, Simon. C'est toujours mal fini.
Chez McLaren, on dit on veut pas voir ce qui s'est passé chez Mercedes avec Rosberg et Hamilton. Et évidemment, c'était à la limite de la du fair play. Mais nous, on se souvient. Et ceux qui même moi qui n'étais pas pour Rosberg,
là, tu poses une question spectateur.
C'était
une point de vue
spectateur.
Mais si tu te mets là à la place du
moi, je suis observateur et j'y connais rien. Donc, en fait, vous me demandez s'ils ont eu raison. C'est tout à leur honneur, d'une part. En revanche,
si je peux apporter
juste un petit amendement.
Est-ce que tu peux apporter un amendement?
Je pense que the worm is in the fruit. Le ver est dans la papaye. Parce que, en fait, je pense qu'il y a un décalage entre la version de McLaren. McLaren nous dit on n'a pas favorisé. Mais en effet, là, je parle sous le contrôle de Jean-Luc, ce qui s'est passé à Monza pour le Grand Prix d'Italie prouve en effet que, et moi je comprends Piastri, même si j'aime bien le petit Norris, quand tu rends la place à Norris alors que c'est toi qui as déconné avec l'arrêt au stand et que tu dis bon, on s'est raté sur l'arrêt au stand, tu peux lui rendre sa place s'il te plaît, et Piastri qui s'exécute, là je pense que au contraire ils sont allés à l'encontre de leur grand principe d'équité entre les deux pilotes.
Oui, c'est parce que c'est pas du nucléaire.
La version de Piastri, c'est de dire je suis désolé, ce qui compte c'est du premier au dernier tour, même s'il y a un arrêt au stand qui se passe pas bien, ça fait partie de la course. Et là, je pense qu'ils se sont dédiés parce qu'en effet, lorsque tu rends la place à Norris parce que t'as déconné au stand et que c'est ton autre pilote qui est devant, je pense qu'ils auraient dû dire ils auraient dû dire à Norris on est désolé, ça arrivera.
Mais ça se passe pas sur la scène, mais hors scène. C'est encore pire, je trouve. Moi, c'est des choix qui sont faits. Tu le dis à peine, mais tu t'essayes de t'arranger pour que ça. Moi, je trouve que c'est pas non plus très clean quand tu fais ces choix-là. Soit tu fais un vrai choix franc et tu communiques dessus. Si tu en fais hors scène, backstage, le spectacle, il en pâtit. Nous, on est floués et leur titre est mis en danger.
Je pense qu'en effet, il y a un décalage dans entre la façon dont ils se comportent avec les deux pilotes.
Et Jean-Luc,
leur grand discours, les papayas rouges, là.
Est-ce qu'ils peuvent encore, il y a 5 grands prix, on l'a dit, est-ce qu'ils peuvent encore faire le choix d'un numéro 1?
Ah, c'est trop tard, ils peuvent le faire, mais pour le moment, la logique, ce serait évidemment une nouvelle fois de choisir Piastri. C'est évident. Ils ne le feront pas parce qu'ils veulent que Norris gagne. Donc le problème, il est là. Voilà. Donc, c'est que ça n'est pas pour eux le bon pilote qui est devant.
Donc Jean-Luc, ils ont déjà fait un choix, mais qu'ils n'ont pas communiqué parce
et
que
vous, ça vous plaît,
ce qui se passe sur le terrain, c'est pas ce qu'ils ont choisi.
Bien sûr. Et à mon avis, si vous voulez, ce qui les a perturbés, c'est la casse moteur de Norris, parce que ça, évidemment, c'était prévu par personne. La casse moteur de Norris en Hollande, où il prend zéro point. Bah, si vous regardez, c'est la dernière victoire, effectivement, de McLaren. Et à partir de là, même Piastri, qui sent bien en Italie, vous venez de le rappeler, que c'est plus lui le favori, même s'il est devant, eh ben, ça commence à merder. Il n'y a pas d'autre mot. Il commence à se prendre les pieds dans le tapis.
Bon, écoutez, on va
voir. Mais il a pris 10 secondes de pénalité à Sylvain
Vincent. Celui qui a raison, c'est Toto Wolff qui a plus rien à jouer en cette fin de saison. Il a la boîte de pop-corn à la main et il l'a dit. On verra bien de toute façon si c'est la bonne décision. On verra à la dernière course si c'est la bonne décision.
Rapidement, petit tour de table, oui ou non. Est-ce que vous pensez que Verstappen va les griller sur le fil?
Non,
je vous en supplie.
Jean-Luc, même s'il gagne les 5 points,
moi je pense que oui.
Non, Jean-Luc, s'il te plaît.
Moi j'y suis pour rien. Et tu as vu les essais là, pareil, il est le plus rapide et pas qu'un peu. Et puis derrière, Norris n'est que quatrième et Piastri est très loin. Piastri est douzième, ils y sont pas, ils sont plus dedans là.
Et en plus, ils ont fait une erreur. Non, mais ils ont fait une erreur majeure, c'est qu'en plus, ils ont arrêté de développer la voiture.
Bah oui,
ça, tu penses?
Oui, ça, c'est un choix d'écurie.
Moi, je pense que Verstappen va les fumer.
Ah ouais, je pense
non, non, dis pas ça, Jérôme, arrête.
Voir. Non, mais en fait, ce qu'on veut, c'est un dernier Grand Prix complètement fou.
Voilà. On va y arriver.
Hamilton, Verstappen, allez, 65% des auditeurs pensent que McLaren a fait une erreur en ne choisissant pas de pilote. Vous avez gagné la team Jérôme, Denis et
Désolé,
Marion.
Jean-Luc.
Jean-Luc, c'est une question d'opinion.
Attends, Jean-Luc, t'as pas notre argument, Jean-Luc. T'as pas un dernier argument.
Mais je vais vous dire, comme quand même statistiquement, c'est normalement un pilote McLaren qui va gagner, tu vois. Ouais. Donc, ils auront gagné sans consigne, et moi j'aurai raison. Voilà. Et voilà.
Et
voilà.
Et
c'est tout.
On sera là.
Et c'est tout.
Jean-Luc, qui sera en commentaire ce soir, qualif. Alors là, franchement, il ne faut plus rien rater en Formule 1 jusqu'à la fin de la saison. Déjà, le podcast Paddock a retrouvé toutes les semaines sur toutes les plateformes de téléchargement notre podcast.
Les qualifs, là, tout à l'heure.
Les qualifs, tout à l'heure, à 23h, heure française. Et la course demain, bam, pouf, prime time, 21h, Jean-Luc Roy. Comme ça, vous êtes le dimanche soir avant la reprise du travail, vous êtes en vacances. Vous écoutez
ça
notre
va être
Jean-Luc.
Du caviar.
Et ça va être la folie.
Du caviar mexicain.
Merci, Jean-Luc. J'ai un petit doute sur le caviar mexicain. On vérifiera. Allez, merci Jean-Luc. Dans quelques instants,
tu peux
écouter ça parce que tu adores le vélo. Salut, hein, Tour de France. Croyez-vous au suspense vendu par Christian Prudhomme sur le parcours annoncé cette semaine? On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424 sur RMC. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, avec du sport en direct ce matin. Tiens, d'ailleurs, on retrouvera Léna Marjac dans quelques instants. On suit la première manche du slalom géant féminin à Zolden en Autriche. Les Françaises ne sont pas passées. On attend également Michaela Schifrin. Dans un instant, vos GG vous font le programme du week-end. En fin d'émission, participez avec vos GG et remportez votre aspirateur Cyclomax R15, station signée Easy Clean. Pour cela, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, les amis, on connaît le parcours du Tour de France 2026. Depuis cette semaine, t'as suivi ça, Jérôme?
Oui, à peine, d'un œil.
C'est un événement pour toi à chaque fois, la présentation du Tour?
C'est toujours un événement.
C'est un bout de clôture
la saison, ça y est, terminé. Ah
ouais,
et on se
fait là, c'est fini. Christian Prudhomme veut partir en vacances derrière. Ouais. On embrasse. Un chrono par équipe à Barcelone pour commencer. Donc ensuite, les difficultés vont monter crescendo, surtout concentré dans la dernière semaine avec les Alpes version XXL. Vous aimez l'Alpe d'Huez? Vous l'aurez deux fois en arrivée d'étape à la veille de Paris, où il y aura un nouveau passage par la butte Montmartre. Est-ce que tout ceci est fait pour préserver le suspense face à Pogacar? Punchline ce week-end signé du directeur de Tour de France, Christian Prudhomme.
RMC, La punchline GG.
On essaye de, toujours de le garder, vous savez, quoi qu'il arrive, vous évoquez Tadej Pogacar, les pavés, ils volent dessus, les chemins blancs, il en rit, la moyenne montagne, il est devant, et la haute montagne, il est encore plus devant, donc c'est assez compliqué. En revanche, la volonté d'avoir vraiment les étapes les plus rudes à la fin, d'avoir trois arrivées au sommet dans les quatre derniers jours, d'avoir deux fois de suite l'Alpe d'Huez, d'avoir ce qui est sans doute la plus rude étape de montagne de l'histoire du Tour à la veille de l'arrivée finale, avec 5600 mètres de dénivelé, oui, c'est la volonté évidemment que tout puisse encore être chamboulé à la veille de l'arrivée finale.
Tout peut être chamboulé jusqu'à la dernière semaine, jusqu'au dernier moment en fait, hein, nous dit Christian Prudhomme. La question que je vous pose ce matin, les grandes gueules du sport, croyez-vous au suspense sur le Tour 2026 ? On a un cycliste autour de la table. Jérôme Pinot. Ben oui, Jérôme, c'est toi. T'as oublié.
Excusez-moi.
C'est incroyable.
Mais évidemment que je crois au suspense.
Ouais.
Mais oui.
Pourquoi ?
Parce que de rien n'est écrit. Déjà, je reprends l'expression favorite de Simon Dutin, on n'a pas de boule de cristal, sinon ça se saurait. Et au final, le parcours est fait pour ça. Alors après, évidemment, si tu es sur...
Tu as dit pour ça, Pogacar, c'est-à-dire pour ça.
Bah pour faire... Parce pour maintenir le suspense le plus longtemps possible. Pour maintenir les écarts les plus palpitants et les plus, resserrés possible avec les 3-4 favoris du Tour. Voilà. Après, si Tadej Pogacar est au niveau où il doit être et que les autres n'y sont pas, parce que cette année, on attendait Evenepoel à côté de Segodas, les autres.
C'est compliqué du coup, pieds nus, de faire les.
Ouais. Ça veut dire que les très, très bonne vanne.
Non, au milieu d'un imagine, très imagine un mec pieds nus dans la montée de l'Alpe d'Huez en danseuse.
Alors, si tu fais, mec, il vient pieds nus.
Pour 1000 mètres,
tu fais quoi? Mais on met tes pompes, garçon.
C'est surtout que de la part de l'organisateur, il ne peut pas non plus être tranché, c'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir un parcours anti-Poggi.
J'ai entendu cette semaine, on veut
faire des chronos de 50 bornes. Bah, du coup, on fait un chrono pour Remco.
Mais non, mais toi, t'es le premier à dire que quel que soit le parcours, Poggi, s'il est à son meilleur niveau, il gagnera.
Mais parce que c'est le plus grand.
Toi, tu crois pas au suspense, Denis. Tu crois pas au suspense.
Mais pas du tout, parce qu'en fait,
Poggi va gagner.
Je pense que Christian Prudhomme est un très grand communicant, on le sait, et puis il nous vend un produit en mettant un peu de suspense. Et Jérôme, il y a cru, mais il n'y a pas de suspense. Parce qu'en plus, moi, ce qui me fait dire que c'est joué à l'avance, c'est que ce tour-là, c'est le cinquième. Il va rejoindre toutes les légendes.
On rappelle, s'il gagne, il va égaler Merckx, Hinault, Anquetil et Miguel Indurain.
Donc je veux dire par là, c'est pour lui dans sa tête, c'est gravé, c'est inscrit.
Tu n'imagines pas passer à côté.
Mais pas du tout. Bien en plus, je vois pas pourquoi il baisserait le niveau. Par rapport au niveau exceptionnel qu'il a eu cette année, et de faire un tour où il va craquer dans la montagne.
T'as trop été impacté par cette saison.
Mais c'est pas ça, je vois pas le problème. Tu peux tourner dans tous les sens la question, je le vois pas craquer dans la montagne. À partir du moment où il va pas craquer dans la montagne, il va perdre où? C'est ça que je me dis.
Rappelle-toi quand même de Miguel Indurain, on attendait absolument pas à ce qu'il craque un jour, et d'un coup tout est s'écroulé.
Merci, il a plus jamais rien gagné. C'était aux arcs, il a gagné 5 fois le tour, on pensait qu'il avait le 6ème dans la poche.
Mais là aujourd'hui,
Denis, je suis désolé. C'est pas parce qu'on dit qu'en effet, c'est Prudhomme lui-même qui le dit. Il est imbattable. Même sur les chemins blancs, sur les pavés.
Mais c'est de la
sur
crème, la je te dis.
Qu'est-ce que tu fais? Jérôme te l'a dit, tu vas pas faire un tour qui.
Mais il va pas vendre un tour, il va dire le vainqueur, il est là.
Souviens-toi, encore une fois, même si plus les jours passent, plus on s'en éloigne. Pogacar, la défaillance dans le col de la Loz, le jour où il explose, il est capot.
C'est arrivé sur quoi? C'est arrivé. Non.
Mais
là où il a perdu le tour, c'est en compte de la montre.
Encore une fois, il n'est pas interdit de penser que la
c'est arrivé parce qu'il n'avait pas d'équipe vers le col de la Loz, il n'avait pas une équipe aussi puissante avec lui.
D'accord, mais. Il va c'est perdre ses Gregario parce que les mecs ils vont vouloir aller dans des équipes devenir le mal alpha dans d'autres équipes.
Ayuso est parti, Del Toro va falloir le maîtriser.
Exactement.
Ils vont être des leaders.
Si Del Toro il se met au service de Pogacar, il va prendre.
Bien sûr qu'il va se
avec
mettre,
les années qui passent. Mais on se rapproche forcément de la fin de domination sans partage.
On arrive au Lioran cette année. Rappelez-vous du Lioran.
Exactement. Et si t'as pas 3 minutes, 4 ou 5 d'avance avant la dernière étape, qui sait ce qui peut se passer? Des défaillances.
Il faut que l'hiver se passe bien, il faut que la prépa se passe bien.
Il faut qu'il arrive.
Il va aller chercher.
Marion d'abord. Marion.
Non, mais il a eu combien de défaillances?
Tu adores Pogacar, on le sait.
Il a été invité dans
Marseille notamment. Marion, toi tu penses qu'il y a du suspense quand même? Toi tu crois au suspense annoncé par Christian Prudhomme?
Moi, j'y crois totalement. Et puis, alors, j'aimerais avoir l'avis de Jérôme, parce que c'était quelque chose qui a été lâché hier par le papa de Remco, donc Patrick Evenepoel. Il était l'invité dans un podcast de nos confrères belges. Il a quand même dit qu'il n'était pas sûr du tout. En tout cas, c'était les rumeurs du peloton. Et là, moi, je n'y connais pas assez pour pouvoir juger. Donc, j'aimerais vraiment avoir l'avis de Jérôme là-dessus. Il a dit qu'il n'était pas sûr du tout que Pogacar participe au Tour de France l'année prochaine, qu'il allait plutôt beaucoup plus viser le Giro et la Vuelta, et qu'éventuellement le Tour N'importe de France, quoi. Il allait sauter l'année prochaine pour aller sur 2027. Donc, est-ce que tu as entendu ces rumeurs, ou c'est complètement du flan, et c'est déjà, on va dire, des pics comme ça envoyés par le papa de Remco pour commencer à semer le doute? Comment ça se passe, Jérôme? Avant de répondre à la question.
Pour le moment, ce dont on est sûr, c'est qu'il axe le début de saison sur Milan-San Remo et sur Paris-Roubaix. Et ensuite, l'objectif sera de rentrer dans la légende pour ensuite la dépasser en gagnant un cinquième tour. Je vois pas du tout.
Mais c'est vrai qu'il n'est pas tellement attaché à l'histoire non plus.
Lors de la dernière édition, il avait, avant la fin, fait part d'une certaine lassitude. Il avait dit j'en ai un peu marre. Et tout. Mais d'accord, mais Jérôme l'a rappelé. Je pense que.
Non, mais la lassitude, on sait.
On rappelle.
Le seul grand tour qui lui manque, c'est la Vuelta.
La lassitude, on se rappelle d'où elle vient. Depuis, on a quand même quelques éléments. Il s'est fait insulter dans le Tourmalet. Il s'est fait jeter dessus. De l'urine, sa voiture s'est fait secouer, il en avait surtout ras-le-bol de se faire insulter tout au long de la route.
Il ne faut pas sous-estimer non plus
cette fatigue
mentale qu'il peut y avoir évidemment, aussi chez Pogacar. C'est vrai que ça a été le seul sujet de l'année.
Quand il domine le Giro d'Italia, il est adulé. En Italie, on adore ce genre de coureur, les campionissimo. Il vient en France, on lui crache dessus. Évidemment qu'il va préférer
aller sur Jérôme, parce qu'en France, il y a quand même un phénomène de... c'est pas de mauvaises habitudes qui s'installent quand un mec domine, rince tous les autres.
Sauf quand il est français, Simon.
Ouais, oui,
il est
français, mais sauf que ça...
Non,
c'est
pas
très gênant.
Il
y a quand même des étapes clés qui sont... S'ils sont très attendus sur 2026, oui. Les deux arrivées en haut d'Alpes
de l'Huez. Il allait gagner les deux.
Toute fin. Voilà. Non, mais sur la toute fin, c'est quand même un suspense qui va se créer. Moi, je suis désolée, j'attends ces étapes avec impatience.
Oui, c'est encore une fois, s'il est à son niveau, il y en aura déjà plus avant cette dernière étape. Mais on peut dire quand même que Prodhomme, Gouvenou et les autres ont fait les choses pour essayer de ménager un minimum de suspense.
Ils ont fait un tour anti-Pogacar.
Non, mais t'as des bordures sur l'étape 11 avec la Charente et la Sarthe, il y a quand même des moments.
Mais Bordure, il va pas prendre notre.
Il
n'est
pas totalement
minutes,
à 100%, il peut y avoir un renversement. Après, je suis d'accord avec Jérôme, si effectivement il vole comme cette année, ça va être très dur, mais tu vas pas faire un tour pour absolument faire que des contre-la-montre de 70 km pour Remco.
Là où ils ont été très prudents, c'est dans la traversée des Pyrénées. C'est aussi là que l'on voit qu'ils ont voulu garder un certain suspense. Mmh. Évidemment, eux, ils sont organisateurs, encore une fois. Ils proposent.
Les Pyrénées ne sont pas très dures cette année. Voilà. Les Pyrénées sont mal, mais c'est dur. On t'entend pas, Simon. Hein.
Ouais. Pardon, tu pars de Barcelone, donc les Pyrénées, t'es obligé d'y aller assez vite, quoi. Donc.
Non, bien sûr.
Mais on me dit que les Pyrénées,
tu peux mettre ta cape tout de suite.
D'accord, mais ils voulaient pas ça. L'arrivée aux Angles n'est pas une arrivée difficile. C'est-à-dire que ça va pas être une grosse différence. C'est pas une étape à proprement parler de haute montagne, alors que ça aurait pu l'être. Ouais. Ensuite, l'étape qui passe par Otakam, on aurait pu faire une arrivée à Otakam. C'est pas qu'on a raboté les Pyrénées, c'est qu'on a évité d'avoir à la sortie des Pyrénées 5 minutes d'avance pour le meilleur d'entre tous. On te dit pas que Pogacar va pas gagner, on te dit que on peut potentiellement.
Ils ont ménagé le suspense, voilà, c'est ça.
Oui,
d'accord, mais bon,
Vincent,
c'est qui va gagner.
Mais t'as quand même 5600 mètres de dénivelé sur
la dernière
étape. L'étape la plus dure de l'histoire du Tour, nous dit en montagne Christian Prudhomme. Vincent, grand fan de vélo, nous appelle au 32-16. Salut Vincent.
Bonjour à tous.
Suspense ou pas, Vincent, sur le Tour 2026 avec ce tracé?
Alors moi, je dirais pas suspense parce que, Pogacar, c'était son objectif numéro un. Mais j'ai eu une vidéo il y a très peu de temps sur les télévisions belges où le père de Remco disait qu'il y avait un doute sur sa
part. C'est ce que vient de dire Marion.
Pour moi, c'est la seule incertitude. Sinon, il y aura pas de suspense. Il sait se préparer, c'est son objectif, c'est sa course. Il sait ce qu'il doit faire et pour moi, il y aura pas de suspense. Que ça soit Vingegaard ou Evenepoel et je pense que on parle de chrono pour Evenepoel. s'il veut gagner le tour, faut pas que ça se base que sur les pronos. Donc, faut s'adapter au circuit et Pogacar, c'est le faire et il sait courir. Hein.
Il fait le courir, premier chrono, il fait 19 km, il fera pas des écarts.
Par équipe.
C'est un chrono par équipe.
Oui, mais c'est pris individuellement.
Oui, bien sûr. Mais le temps est pris individuellement.
Mais 20 bornes par équipe, ça fait des écarts de 20 à 30 secondes.
Oui, voilà. Ah, mais c'est sûr que si ça avait été un circuit à Barcelone avec plusieurs passages sur la côte de Montjuïc, par exemple, ça aurait pu faire des gros dégâts peut-être sur la première étape. Ils ont pas choisi de le faire. Il aurait pu gagner et avoir un gros écart.
Bien sûr, cette année, on est arrivé à Boulogne, on a vu un sprint entre Mathieu et Tadej Pogacar. Je veux dire, tous les terrains conviennent à Tadej Pogacar. On disait tout, à l'instant avec Denis.
Salut, c'est Denis Charnier.
On était en train de discuter. Je dis prénom, à l'époque avec Bernard Hinault ou Eddy Merckx. J'allais t'appeler Eddy. C'est un peu trop.
Eddy Charvet. En vrai, Eddy Charvet.
Non mais à l'époque, Eddy Merckx et Bernard Hinault.
Non mais attends, Eddy Charvet, bon chanteur de variété dans les années 70. Tu vois, je pense que je le vois avec ses 33 tours.
Ce soir, un concert.
J'imagine bien. Bonjour, ce soir c'est Eddy Charvet. On est à
l'heure.
Non. Et à l'époque de Merckx et Dino.
Avec un tube en anglais, bien sûr.
Peu importe le parcours, il y avait pas de suspense. C'est ça aussi, aujourd'hui, avec Tadej Pogacar, c'est qu'on est dans une ère où il y a un garçon
surprise,
au-dessus des autres. Alors, le parcours, on l'a fait en sorte qu'il maintienne ou il puisse maintenir une espèce de suspense le plus longtemps possible. Mais tu dis, il est communicant. Non. Si Prudhomme propose un parcours en disant, et nous, ce qu'on a envie, c'est qu'au bout d'une semaine, ce soit plié et que tout le monde
veut se passer.
Moi, je t'ai posé une question quand même. La question qu'il faut poser, c'est est-ce que s'ils avaient mis des contre-la-montre, allez, deux contre-la-montre un peu longs, on va dire, 50 km, est-ce que ça aurait changé quelque chose?
Mais ça aurait changé quelque chose, évidemment. Ça aurait fait prendre du temps à Remco Evenepoel, mais pour le coup, c'est un choix qui là n'est pas sportif.
Est-ce que pour autant il aurait perdu?
Et tu ne sais pas s'il va le perdre.
Marion, on avait une question.
Non mais moi en fait cette déclaration du papa de Remco, c'était hier dans un podcast en Belgique, donc je me demande pourquoi il fait cette déclare en fait. Est-ce que c'est pour commencer à juste envoyer une pique comme c'était ça, une espèce de bataille médiatique à l'avance? Est-ce qu'il a pas envie que son fils...
Ce que l'on sait, c'est que sur la communication, clairement ils sont très très forts. Il va falloir qu'il passe à l'action maintenant, parce que évidemment Remco, il a changé d'équipe, son papa commence à faire de la com. Mais Remco, c'est sur un grand tour et en montagne une patte et demie de moins que Tadej Pogacar. Il est là. Donc allons combler le manque sportif. La communication ne fera jamais gagner un Tour de France.
Bon, il a une meilleure équipe quand même pour l'année prochaine.
Oui, mais la meilleure équipe cette année aussi, la Bora. On nous l'avait vendu, ils ont tous pété comme des pop-corn.
Explosé, on dit.
Et d'ailleurs, c'est Filipovic qui a gagné, qui a fait sur le podium. Qu'on n'attendait absolument pas. Et finalement, ces grosses armadas avec un certain nombre de noms au départ, ça fait pas d'une équipe.
Tu sais que ce sponsor donne des ailes, donc on va voir si Remco Evenepoel arrive.
C'est le même sponsor que le Paris FC.
A surperformer. Et croyez-vous au suspense sur le Tour 2026. Tiens, au 06 12 424 424 sur notre WhatsApp. SG me dit, Denis, il fait le blasé, mais il nous vend un sport où Toulouse gagne toujours.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Tu peux me le dire en anglais?
It's not... non, je sais pas.
Allez, on revient dans le sujet.
It's true.
C'est magnifique.
Allez, à tout de suite dans le Grand Gueule du Sport pour la Zapette.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Georges Quilino.
Avec Mario Bartoli, avec Simon Dutin, Jérôme Pinault et Denis Charvet avec nous ce matin.
Eddy Charvet,
c'est ton c'est ton double anglais chanteur de variété dans les années 70.
Ouais. Ouais.
Je t'aurais bien vu comme ça en couverture d'un
vinyle. J'ai une belle voix.
Chante bien en français ou en anglais?
En rien, je chante bien.
Couleur anglais.
Toujours rien à voir. Le truc que j'ai pas eu comme don, c'est celui-là. Vraiment,
toujours rien à voir avec David.
David, c'est non.
Non. Toujours rien.
Mais souvent, lui, chante en anglais en revanche, il peut.
Ouais. Ouais.
Souvent, on t'appelle David.
Pas très bon non plus. Hein.
Ouais. On t'appelle encore souvent David?
Souvent.
Ouais. Bon, ça va, franchement, il y a pire. Hein.
Je réponds pas.
Je réponds pas, c'est vrai.
On oublie ton prénom.
Parfois, il y a un mec qui m'appelle toute la journée. Toujours, il y a un mec qui m'appelle toute la journée David. J'ai pas répondu.
Avec le
Et à la fin, il était comme un con parce qu'on a gagné, mais tu sais que c'est Denis.
Oh merde, lui.
Ben ouais, mais
t'avais son petit slip rouge à la piscine.
Non, pas du tout. On joue au golf. Et le mec, pendant 4 heures, il m'appelle David.
Tu m'entends?
J'ai pas répondu.
Qui est le plus beau, tu penses? À votre prime?
Sérieux. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu m'emmerdes.
Dans l'attitude, il sait que c'est lui. Hein. On a quand même appris qu'il va dans des piscines où il croise des stars hollywoodiennes et il joue au golf.
Non, mais moi, surtout, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que David Charvet, est-ce qu'on l'appelle Denis tout le temps? Et il répond pas.
Sûrement,
quand il est à Malibu,
on passe la plage. On passe, s'il te
plaît. Allez, je rappelle qu'il y a des lives ce matin à Zolden, en Autriche. C'est la reprise de la Coupe du Monde de ski alpin, slalom géant ce matin. La première manche est partie depuis 10h. Léna Marjac, on en est où pour l'instant?
Eh bien, 27 skieuses sont passées avec une Autrichienne en tête, Julia Scheib, devant son public qui a sorti le meilleur temps aujourd'hui et surtout un très gros temps parce qu'elle colle plus d'une minute trente d'avance sur l'ensemble de ses concurrentes. Et il y a une skieuse qu'on attendait évidemment, c'est l'Américaine Michaela Schifrin avec ses 101 victoires en Coupe du Monde et notamment 22 en géant. Elle prend le sixième temps provisoire à 1 minute 70 donc de Julia Scheib. Et on va attendre évidemment aussi, ce sont nos Françaises. Elles sont quatre aujourd'hui à prendre le départ de ce géant d'ouverture de la saison. On retrouvera avec le dossard 36 Clara Direz, le 48 Camille Cerruti, 54 Axel Chevrier et 58 Dorian Escanet. Et aussi les conditions se dégradent un petit peu. Il y avait du vent au sommet au tout début. Ça s'est calmé un petit peu, mais maintenant il neige un tout petit peu. Donc,
il neige.
Voilà. Et on voit qu'il y a des petites chutes de temps en temps.
Oui, effectivement. Pour la reprise de la saison, il faut prendre ses habitudes. Il faut prendre ses habitudes. Léna, d'ailleurs, c'est une seconde d'avance, pas une minute sur cette première manche.
Une minute.
Ah oui, parce que là, t'imagines.
Ah bah là, comme on dit.
Chasse la neige.
Effectivement.
Sinon, comme on dit en ski, ça veut dire
d'avance.
Que.
C'est
la
vrai
skieuse...
que je me suis un petit peu emballée. Je me suis cru en vélo, là.
En fait, la meuf, elle est partie tout droit. En fait, tu sais, du coup, à l'arrivée, une minute. J'ai pas passé les portes.
3 minutes, c'est ce que prend Christophe Cessieux sur une piste bleue.
Ouais.
À peu près.
On l'embrasse à Christophe. Allez, les amis, dans quelques instants, ce qu'il faut absolument suivre ce week-end.
RMC, la zapette des GG.
Denis, je te passe la zapette. Qu'est-ce qu'il faut absolument suivre ce week-end?
Le match de la mort, oui, mais c'est pas
en espagnol, on dit comment?
La muerte.
Ah, ouais.
Ah, et en anglais?
The death match.
Et voilà, bah ouais,
quand ça passe. Non, l'USAP qui se déplace à Montauban, on sait que l'USAP a 0 point depuis le début de la saison, qui fait un début de saison catastrophique. Montauban qui a 3 points, Montauban qui est difficile à manœuvrer à la Sapiac. Mais faut le voir. Alors c'est vrai que en général on regarde les matchs d'en haut, hein, mais là
c'est la finale d'en bas,
c'est intéressant,
en fait.
Non, mais parce que c'est dur pour l'un et pour l'autre, et il va y avoir beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité, ça va être terrible.
16h35 pour ce match.
C'est la
huitième journée, huitième journée top 14.
Déjà terrible parce que J8, c'est déjà un match.
C'est un top 12,
c'est une option. Si Montauban gagne, ils n'ont pas fait le plus dur, mais en tout cas ils vont peut-être se sauver.
Je rappelle RMC, la radio du rugby. Il y a eu Bébé Bayonne également ce soir à 21h avec le retour de Lucu. Et demain, Toulouse, Toulon. Tous les matchs assurés évidemment sur votre antenne. Marion, je passe à la zapette. Il y a du tennis, oui. C'est ça, absolument à suivre.
Mais bien sûr qu'il y a du tennis. Il y a le Rolex Paris Master qui est le dernier Master 1000 de l'année avec des places qualificatives pour le Masters. En jeu, donc il va y avoir beaucoup de pression sur les joueurs. Et puis surtout, c'est dans un nouvel endroit, un nouvel écrin, puisque c'est à Paris, la Défense Arena. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer avec ces nouveaux rideaux anti-bruit. Ah oui. Si Eric Saillot va arriver à commenter ses matchs ou s'il va nous dire, mais c'est pas possible, mais j'entends le score du coup au numéro 2, mais
s'il vous plaît,
tranquille.
S'il vous plaît, laissez-moi commenter.
Voilà, exactement. Donc moi, j'ai vraiment hâte d'y aller voir. Et puis surtout, aller voir les Français en qualification ce week-end. Il y a toujours de très, très bons matchs. Le niveau est extrêmement élevé. Et puis vous aurez la chance de voir Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, qui vont en découdre pendant toute la semaine à Paris. Et puis surtout, parce que vous l'avez suivi, cette fameuse histoire de cousins qui s'étaient affrontés en finale de Shanghai entre Valentin Vachereau, le Monégasque, et Arthur Rinderknecht, le Français. Ils peuvent se retrouver dès le deuxième tour. Ils ont été invités tous les deux. Ils ont reçu une wildcard par Cédric Pelline en tableau final. Ils peuvent se retrouver dès le deuxième tour et ça pourrait être vraiment un gros choc. Donc absolument à ne pas rater le Rolex Paris Master.
Non, mais vous imaginez si on a une nouvelle cousinade, ça va devenir le nouveau classique du tennis. Il y aura Alcaraz Sinner et Rinderknecht Vachereau.
Bon,
toute proportion gardée.
Toute proportion gardée.
Je te passe la zapette. Simon Dutin, du Wemby, c'est ça?
Ben oui, Big Fred n'est pas là, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Un petit peu de NBA, à un horaire qui n'effraiera pas les moins NBA-files de nos auditrices et nos auditeurs. Demain, 19h, le troisième match de la saison régulière des San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama, évidemment, qui nous fait un carnage en ce début de saison. Il l'a dit, j'ai plus
putain de bosser, comme disent parfois maladroitement les jeunes. Cet été, carnage pour son retour sur les parquets après une longue interruption, 29 points. Non, c'était 40 contre les Dallas Mavericks.
Et ça, c'est 7 rebonds, nuits.
Après. 3 contre, la nuit dernière, 29 points, 11 rebonds et 9. Alors, c'est pas des passes décisives, 9 contre. C'est absolument monstrueux. Il est à, donc, une unité du triple-double, qui est une catégorie statistique assez prestigieuse. Il s'est fait sortir pour 6 fautes. Et demain, c'est à 19h, heure française. Contre les New Jersey Nets, ça sent un nouveau
Brooklyn Nets, ça a
bougé. Ça
fait 10 ans.
Le boomer que je suis, je pense encore à Drazen Petrovic. Ouais. A priori, le 3 sur 3 pour des Spurs qui pourraient bien aller en play-off. Et lui, qui pourrait bien viser le titre de MVP.
Et déjà, oui, ce sera le premier match à la maison pour Wemby, à la maison à San Antonio. Et RMC est à San Antonio. On sera avec Félix Gabory demain dans les Grandes Gueules du Sport. On va poser cette question. Est-ce que Wemby peut être le plus grand sportif de son époque, quand on voit où est-ce qu'il est parti. Fred Weiss est
pour
en plus, il grandit tous les ans, Migo. Ça va être
le plus riche.
Le plus riche, ça c'est pas improbable, effectivement. Je te passe la zapette, Jérôme. Qu'est-ce que tu veux voir absolument?
Moi, j'aurais pu te vendre le super prestige de Zonhoven, mais ça va pas intéresser grand monde. Non, alors moi, j'ai envie de voir ce match qui est intéressant pour moi dans Ligue 1, qui va être le Brest Paris Saint-Germain. Alors pourquoi vous me direz? Parce que déjà, le Paris Saint-Germain, ça fait 4 match, une seule victoire en Ligue 1, que le Paris Saint-Germain domine ses matchs de Champions League, mais j'ai envie que le Paris Saint-Germain s'intéresse un peu à cette Ligue 1, qu'elle ne le laisse pas de côté. Alors on annonce une super compo de la part de Luis Enrique, ce qui veut certainement dire une compo du matin, c'est pas la même que l'après-midi, on risque d'avoir une équipe avec sans Doué, sans Dembélé. C'est quand même le retour de Dembélé en Ligue 1, aussi. Et puis à Francis Leblay, ça sera jamais simple, puisque les elfes de Brest ont besoin de points, avec notre ami...
Les elfes?
Oui, ça.
C'est pas plutôt les Tisefs?
Les Tisefs,
okay. Après, si tu veux, on peut dire qu'il y a des elfes, parce que c'est les pirates.
Alors, ils peuvent devenir pirates dans les dernières minutes. Et on a aussi Ludovic Ajor qui doit marquer des buts, qui est aujourd'hui pèse sur le championnat, qui est l'un des tout meilleurs joueurs de notre championnat. Mais qui doit marquer des buts, qui doit faire un beau match de gala. Pourquoi pas lancer sa saison aussi et passer comme il l'était l'an dernier, mis en avant et le leader de cette équipe. Moi, j'attends beaucoup de ce match-là. Pourquoi? Parce que s'il y a un résultat négatif du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Brest cet après-midi, ce soir le match Lens-OM aura encore plus
d'intérêt. Brest-PSG 17h, 9e journée de Ligue 1, tous les matchs à suivre sur RMC évidemment. C'était un match de Ligue des Champions l'année dernière, hein, Brest-PSG, tout simplement. Les amis, dans quelques instants on revient avec le vestiaire, être aujourd'hui sportif de haut niveau. Le buzzer, on va parler de Cyril Gann qui va se battre pour une ceinture en UFC, peut-être le premier français, et puis les jeux du sport. On revient dans quelques instants sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.